Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio sur RMC, à la télé RMC Story, canal 23 de la TNT, 2 heures de direct ensemble jusqu'à 14h, avec un petit nouveau, tiens, aujourd'hui, dans l'émission.
Oui, j'adore être présenté comme le petit nouveau.
Exactement, oui. Mourad Aïtabouche, reporter, réalisateur, ça va Mourad ?
Ça va très très bien Estelle.
J'étais très content de vous avoir dans la bande, en face de vous, il y a mon bras droit, ma jambe gauche, qui est Charles Magnien, ça va Charles ?
Bonjour Estelle, ça va très bien.
C'est la dernière émission de la saison pour tous les deux. Enfin, ensemble, en tout cas.
Oui, nous, on sera là demain.
Vous ne découvrez pas ça aujourd'hui.
On sera là demain.
Vous serez là demain.
Oui.
Et moi, je serai là la semaine prochaine.
Mais pour le couple, c'est la dernière.
Pour notre couple, c'est Charles, c'est notre dernière.
On va tellement se manquer.
Il y aura des petits trémolos dans la voix. Nous sommes également avec le journaliste et libraire, Jean-Philippe Doux. Ça va,
Est-ce que gêné d'être dans votre intimité?
Tous les jours, de midi à 15h. Tout le monde est dans notre intimité.
Ce sera 14 aujourd'hui. Ça va, Jean-Philippe? Très bien. L'équipe est très dissipée. Et puis, nous sommes également avec la journaliste indépendante de Dijon, Emmanuelle Dancourt. Bonjour Emma.
Et bonjour tout le monde. Et bonjour au petit nouveau.
Ah, merci Marianne, j'aime beaucoup la Bourgogne.
Marianne. Enfin,
Bien tenté, mais
là j'avais tout répété, les prénoms, etc.
Surtout ne répétez pas.
Merci Marianne. Je savais que vous étiez de Bourgogne, de Dijon.
Dans un instant, on parlera de France-Maroc. C'est ce soir, 22h, quart de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous craignez des violences et des débordements dans la rue après la rencontre? Eh bien, vous nous dites tout. 32 16 et le WhatsApp d'Estelle Midi, Charles.
Le 06 12 424 424, pour tous vos messages qu'on va lire en direct.
On parlera également de la petite phrase de Bernard Arnault. En France, on ne supporte pas la réussite. D'accord, pas d'accord avec le patron d'LVMH. Et puis à 13h30, Louis de Funès, le général de Gaulle, Michael Jackson. Est-ce que vous en avez ras-le-bol des biopics? Il n'y a plus que ça aujourd'hui au cinéma. Dites-nous quel est votre biopic préféré. Si vous allez si vous avez vu De Gaulle par exemple, on vous attend pour en débattre à 13h30.
RMC Estelle Midi.
Midi 8 sur RMC et on démarre Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est bien sûr le match que tout le monde attend aujourd'hui. France-Maroc, 22h, quart de finale de la Coupe du Monde. Et si on craint les Marocains sur le terrain, on est également inquiet par rapport à d'éventuels débordements dans la rue. De quoi ont peur exactement les autorités, Charles?
Cette rencontre présente un risque accru en raison de son caractère éliminatoire et de l'enjeu d'une qualification en demi-finale. Voilà ce qu'on peut lire dans la note des renseignements territoriaux. Les policiers qui rappellent dans ce document que lors de la dernière rencontre France-Maroc, Coupe du Monde 2022, eh bien, il y avait eu des rixes, des incendies, des dégradations, une centaine d'interpellations. Ce soir, les autorités redoutent, je cite, des regroupements sur la voie publique accompagnés de l'usage de moyens pyrotechniques, quel que soit d'ailleurs le résultat de la rencontre, d'éventuels débordements, des affrontements entre supporters, des envahissements de certains axes routiers. Ce risque apparaît renforcé en cas de victoire du Maroc. Voilà ce qu'on peut lire dans cette note en raison, je cite, de l'importance symbolique d'une telle qualification et de la propension des supporters à la célébrer de manière visible et agitée sur la voie publique. L'enjeu, disent les forces de l'ordre, serait de permettre toutes les célébrations sans laisser prospérer les violences urbaines. Et puis rappelons qu'il y a surtout quand même un match sur le terrain ce soir. Selon un sondage Odoxa, 9 Français sur 10 pensent que les Bleus vont se qualifier et 73% pensent que la France va remporter le mondial.
Alors, violence, débordement, avez-vous peur pour France-Maroc? Mourad Aïtabouche.
Pour le moment, je vais dire quand même que c'est une belle affiche, une belle promesse.
Ouais,
parce que pour moi, c'est quand même une belle revanche de la demi-finale d'il y a 4 ans. Donc forcément, les Marocains ont raison d'y croire, mais on a quand même l'équipe la plus séduisante. Pourquoi je parle de ça? Parce que pour moi, forcément, ça se passe sur un terrain de football et pas dans la rue. Et ça peut pas être autrement.
Ça va se passer dans la rue, vous le savez très bien.
Mais peut-être, mais en fait, ça se joue sur un terrain. Quand on aime le football, quand on sait les investissements des joueurs de l'équipe de France, des joueurs du Maroc, on se dit que ça serait quand même dommage que ça dérape et que ça déborde dans la rue. Encore une fois, moi je suis...
C'est quand même une probabilité qui est assez forte, ne serait-ce que parce qu'on est en quart de finale de la Coupe du Monde.
Mais vous rendez compte, on a l'impression que là, c'est un déploiement de force exceptionnel. Il y a des risques, mais encore une fois, je pense qu'on est outillé. Il va y avoir évidemment des arrestations, des gardes à vue.
On parle de jusqu'à 20 000 policiers dans tout le pays.
Mais 20 000, c'est pas énorme.
C'était 82 000 pour le match du PSG. Oui, c'est pas énorme. Mais justement...
Ouais, mais encore une fois, moi je
pense que... C'est un match qui va se terminer s'il y a des prolongations après et des tirs au but après minuit et demi. Donc ça veut dire que les gens, ils auraient eu le temps de boire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils auraient eu le temps d'avoir chaud.
Il y a plein d'endroits.
Ils auraient eu le temps.
Il y a plein d'endroits où on interdit l'alcool. Lors du dernier, la dernière finale du top 14, l'alcool était interdit au Stade de France. Moi je trouve ça parfaitement normal. Il y a tout un tas d'endroits où on doit absolument interdire l'alcool. En revanche, on peut pas dire que les Marocains vont boire et que c'est le fait qu'ils soient complètement bourrés qui va les pousser à faire des débordements.
Non, mais après, on sait très bien que c'est des matchs où forcément il peut y avoir des débordements et que la fête soit gâchée. On a quand même l'impression, Emmanuel Dancourt, je sais pas si c'est comme ça à Dijon aussi, mais que, en fait aujourd'hui on ne sait plus vraiment faire la fête, quoi.
Ouais. Alors moi j'ai pas peur des débordements, mais juste pour te dire, j'habite dans un village de 150 habitants à côté de Dijon, donc tu veux les débordements, je les regardais de loin. Après, honnêtement, si j'avais peur, je laisserais pas ma fille aller ce soir à la cité gastronomique de Dijon. Ils organisent une fan zone. Je suis pas très sport, tu vas voir. Une fan zone à la cité gastronomique de Dijon. Je laisse ma fille de 24 ans y aller. On a une forte communauté marocaine à Dijon qui est très bien intégrée. Moi, je pense qu'il y aura pas de débordement, sinon évidemment je laisserai pas ma fille aller à cet endroit-là.
Mais c'est pas à cause des Marocains ou à cause. C'est pas ça. C'est simplement parce que quart de finale de Coupe du Monde, on a vu ce qui s'est passé avec le Paris Saint-Germain et légitimement. On peut
mais c'est
quoi
ces deux facettes du sport? Ouais. T'as du foot sur le terrain et t'as de la boxe dans la rue.
Ouais.
Enfin, c'est hallucinant. Quand on
en a assez parlé.
On avait vu la dernière fois quand il y a eu des émeutes avec des panneaux qui étaient défoncés, des arrêts de bus et tout ça. Moi, j'ai envie d'y croire, en fait. J'ai envie d'y croire. Sinon, si vraiment j'avais le moindre doute, clairement, ma minette, je la laisserais pas y aller, quoi.
Oui, mais après, c'est pas au doigt mouillé, c'est le midi, c'est les autorités, qui craignent
leur rôle.
Des débordements.
On est d'accord qu'ils sont dans leur rôle de faire de la prévention, de mettre 20 000 policiers donc sur le terrain. Je trouve que l'effectif il est plutôt bien mesuré. On va voir ce que ça donne. Peut-être que la suite me donnera tort.
Jean-Philippe Doux, est-ce que vous allez aller faire la fête ce soir ou est-ce qu'au contraire vous préférez rester chez vous? On ne sait jamais.
Alors moi je vais faire la fête dans mon village provençal, mais je n'irai pas dans les grandes villes parce que je vous trouve bien angélique en fait. Mourad, tu parles de sport, de foot. Mmh. Oui, le foot c'est le rendez-vous. Mmh. Mais c'est aussi un rendez-vous pour tous ceux qui n'en ont rien à faire du foot, qui vont venir profiter justement de cette ambiance, de cette liesse pour aller casser, pour aller piller, qui n'ont rien à voir parfois avec le Maroc ou la France, qui n'ont rien à voir avec les supporters, mais qui se sont donné rendez-vous, qui disent ce soir, on va y aller parce que il va y avoir du monde dehors, donc du coup, on sera moins visible. Prends une rue déserte. Là, il y a pas de problème dans une rue déserte, t'auras jamais de pillards, t'auras jamais d'émeutiers. En revanche, prends une rue qui est remplie de supporters qui eux sont là pour faire la fête et pour parler football et soit pour fêter la victoire, soit pour se consoler dans la défaite. Mais moi, je suis sûr que ça va être le rendez-vous de tous les autres, tous ceux qui ne sont là que pour casser, que pour piller, qui sont frustrés dans leur vie, qui sont frustrés de pas pouvoir s'acheter les dernières baskets, etc., qui vont aller se servir ce soir, qui vont aller péter.
Alors là, je vous trouve hyper pessimiste. Enfin, hein, j'ai pas souvenir de débordement de match entre la France et le Maroc. Et pour le coup, j'ose espérer que les gens soient civilisés et aillent pas se servir dans les magasins parce qu'il y a un match de foot.
Tout,
quoi.
En fait, tout le débat est qu'est-ce qu'on met derrière le mot débordement? Parce que
un pillage, c'est un débordement.
Oui, hein. Un pillage, c'est de la violence, c'est du débordement. Mais s'il y a des hordes de voitures qui klaxonnent, deux trois fumigènes, du bruit, du monde,
des tirs de mortier sur les policiers.
Voilà. Arrêtons avec le mot mortier.
C'est un explosif.
Non, mais le mortier, c'est pas un mortier de 105 mm à nos buts, etc. Moi, je pense qu'il y a une certaine disproportion. En revanche, là où je suis complètement d'accord avec Jean-Philippe, avec toi, c'est qu'effectivement, on est là avec des casseurs professionnels, entre guillemets, qui vont dire chouette, on va pouvoir casser du flic.
C'est le prétexte.
Ça, c'est un prétexte. Voilà. Et pour moi, ça, c'est grave. Parce que, encore une fois, j'aime tellement le football. Ce qui va se passer ce soir, c'est probablement, j'espère en tout cas, l'affiche, l'un des plus beaux matchs. Mmh. Mais si ça se passe derrière, on va retenir quoi encore?
Comme d'habitude.
C'est ça qui est terrible. Et qu'est-ce, nous, médias, qu'est-ce qu'on va dire demain?
Non, mais demain, on va retenir la qualif pour les demi.
J'espère.
Ça dépend.
Ou l'élimination en quart.
Ça dépend de comment se passe la fête. Dans les deux cas.
Sur l'équipe, ça va dire, l'équipe, c'est on va en demi. Et puis dans le Parisien, ça va être 350 arrestations.
Oui.
Voilà.
Il y a aussi une chance que ça se passe très bien. Enfin, moi j'espère que ça va bien se passer.
Mais on l'espère. Alors, en 2022, c'est vrai qu'en 2022, lors de la demi-finale, il n'y a pas eu de gros débordements.
Il y a eu une centaine d'interpellations sur tout le pays.
Oui, c'est pas que Paris.
Oui, ils disent, il n'y a pas eu de troubles majeur à l'ordre public.
Le match a lieu à 22h.
C'est
donc
ça le problème.
On peut
pour moi,
supposer
c'est ça le problème.
Quand même. Non, je crois pas, au contraire. Il va falloir veiller. Donc, à moins que vraiment on ait envie de laisser ses enfants dehors jusqu'à 3, 4 heures du matin. Moi, franchement, j'ai la chance d'habiter sur les bords de Seine. Régulièrement, ça fait la fête, etc. Il y a des feux d'artifice et pas des mortiers. Et je trouve ça génial, parce que c'est ça aussi qui fait que Paris est une ville magique. Il y a certes des enjeux qui débordent, et ça, ça me gêne vraiment, franchement, mais je pense que la justice comme la police sera à la hauteur, même si parfois on en fait trop en anticipant en amont. Mais franchement, j'espère que le match, il y aura pas de prolongation derrière, enfin, et pour la France, ouais, l'équipe de France, vrai. Mais aussi pour
nous, quoi. Quoi.
En plus, il y a pas école. Il y a pas école demain, donc il y aura beaucoup de jeunes dehors aussi.
On a Ali qui est avec nous. Ali, il nous appelle de Boën-sur-Lignon dans la Loire. Il est chauffeur de poids lourd. Bonjour Ali.
Bonjour, salut à tous.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Ali, vous regardez le match ce soir?
Comme tous les matchs de la Coupe du Monde que j'ai pas loupé.
Ouais, d'accord.
Donc, même à 5h du matin.
et vous êtes... J'ai 500 d'exception.
Et vous êtes chez vous, Ali, ou vous êtes dans votre poids lourd?
Non, là, je viens de finir, là, parce que j'ai commencé à 2h du matin, donc là, je vais rentrer tranquillement.
D'accord. Et est-ce que vous avez peur d'éventuels débordements ou pour vous, voilà, c'est un match de foot, il n'y a pas de raison que ça se passe mal?
La Suisse, l'Argentine... tous les autres pays, pourquoi ils n'ont pas ces problèmes? Il y a que nous en France, on est en train de parler de débordement là où ça doit être la fête.
C'est vrai.
Et quand on fait le comparatif entre 2022 et 2026, alors j'imagine si je fais le comparatif entre 98 et 2026, c'est encore pire. Je tombe de plus haut encore. Je sais pas qui c'est qui a dit que le match était à 22h, que c'était un peu tard. Je vous rappelle que les Gremlins, ils se transforment à minuit. Hein.
Les Ewoks deviennent des Gremlins. Ouais,
normalement, ce sera fini à minuit. Enfin, écoutez, on l'espère, mais voilà. Ali, pour vous, ça craint quand même, quoi.
Mais malheureusement, ça craint parce qu'on mélange tout. On mélange le sport, la fête, la politique. Et on a eu le cas échéant avec le PSG. Donc, même s'il n'y avait pas les services de renseignements généraux, on savait très bien que malheureusement, c'est écrit. J'aimerais dire le contraire. J'aimerais dire, tiens, ce soir, je vais sortir avec mes enfants, faire la fête, klaxonner. Ouais. Bah oui. J'aurais aimé dire ça, mais je sais que c'est impossible. Je ne le ferai pas. Et je me dis que, à quel moment.
Mais c'est dommage quand même.
Mais c'est dommage parce qu'en plus de ça, on va venir donner du gras à moudre à un certain parti politique qui va se réjouir parce qu'il dira des marques.
Mais attendez, c'est pas fait, Ali. Il n'y a pas encore eu de. On a l'impression que ça y est, tout est cassé.
Mais parce que j'ai regardé sur les réseaux sociaux, malheureusement, il y a déjà une guerre, déjà bien avant de commencer le match. Il y a une petite guéguerre sur les réseaux et c'est pour ça que je me dis que malheureusement, c'est inévitable.
Bah écoutez, j'espère que vous allez avoir tort, Ali. J'espère franchement que ça va hyper bien se passer à la fois sur le terrain et puis en dehors du terrain. Après, c'est en tout cas ce que tout le monde souhaite, évidemment. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Et puis bon match ce soir. Un petit pronostic, Ali, quand même.
Ouais, je suis désolé pour mes amis marocains, mais je pense que ça va être sans appel, hein. 3-1 ou 4-1.
Ah ouais, carrément. Ah ouais, donc on est confiant de votre côté.
Parce qu'ils se sont fatigués sur les deux derniers matchs et l'expérience, elle va manquer chez eux, malheureusement.
Ouais, mais nous, on a joué quand même sous 40 degrés, match compliqué face au Paraguay. En tout cas, on verra bien. Merci beaucoup, Ali, d'avoir été avec nous. Ça donne quoi sur le WhatsApp, Charles?
Ça divise. Jérôme qui nous écrit sur WhatsApp au 0612 424 424. Comme d'habitude, une minorité de crétins va gâcher la fête. Il y a quand même deux belles équipes, de quoi avoir un très beau match, faire une très belle fête. Et le risque, c'est que les crétins gâchent la fête. Et David nous dit, moi je me fais du souci. Mon fils de 15 ans me demande d'aller regarder le match en ville avec ses copains. Je lui ai dit, ok, la seule consigne, c'est qu'au coup de sifflet final, tout le monde est rentré dans les 5 minutes à la maison.
Ah oui, quand même, ah oui, ça rigole pas. Jean-Philippe, vos fils, ils le regardent où le match?
Ils vont le regarder avec moi. Mais ça, c'est plus parce que...
Est-ce que vous auriez autorisé le grand de 16 ans à aller le voir dans la rue, dans un bar?
Pas sûr, non. Pas sûr, et en plus, en tant que papa, j'ai envie de vivre ces moments avec eux. C'est des moments de notre mémoire commune.
La prochaine Coupe du Monde, ils seront pas à la maison.
Oui, c'est sûr. Profitons-en. mais je pense que j'aurais demandé en effet de pas y aller. Et c'est vrai qu'on disait, on parle. Ali nous disait, oui, l'Australie, la Suisse, on n'en a pas parlé ça, mais c'est parce que là, il y a une charge émotionnelle qui est très forte. Moi, mon papa était instituteur au Maroc. On a une relation très historique avec ce pays et des frustrations des deux côtés aussi.
Alors, on est avec Hicham qui nous appelle de Sergi, qui est infirmier libéral. Bonjour Hicham.
Salut Estelle, salut l'équipe.
Hicham, vous regardez où le match ce soir?
Je le regarde dans un salon de thé.
C'est un court dimanche. Si vous voulez venir, vous êtes les bienvenus.
Bah, écoutez, j'avais un truc de prévu, mais ouais, écoutez, on va peut-être essayer.
C'est la bienvenue. T'inquiète, un jour, on fera l'émission là-bas.
Eh ben voilà, une déloque au salon de thé. Pas de problème, Hicham. Hicham, vous craignez des débordements ou pas du tout? Ça va bien se passer, ça va être bon enfant.
Moi, j'ai l'impression qu'on en fait un peu trop. Excusez-moi, mais je vais aller à contre-courant.
Vous avez raison.
Hein. Depuis ce matin, et surtout, j'ai écouté les grandes gueules, je faisais ma tournée ce matin. J'étais un peu en tension, je voulais appeler Truchot et Marshall, mais j'ai eu l'occasion de vous donner deux mots avec vous. Moi, je trouve qu'on en fait un peu trop, parce que le Maroc a déjà joué 5 parties depuis le début du Mondial.
Ouais.
Le Brésil, l'Haïti, l'Écosse, les Pays-Bas et le Canada. Et le Canada, c'est le dernier match. Et le dernier match en question, les Marocains, ils ont joué juste avant les Français. Dans les rues de Paris, les supporters marocains supportaient l'équipe de France qui jouait à 23h. Ça s'est super bien passé. C'était bon enfant. Il y a des retransmissions partout. Vous allez au Grand Rex depuis le début de la Coupe du Monde. C'est des scènes de liesse, de joie. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de débordement. Alors, ok, c'est un France-Maroc. Mais moi, je voudrais juste rappeler que la France et le Maroc, ils ont une histoire. Ils sont liés intimement de par leur histoire, de par le vécu, de par plein de choses culturellement. Et bref, et donc du coup, moi je trouve que on en fait un peu trop. Après, les renseignements, ils font leur taf, mais à un moment donné, les renseignements, ils doivent garder leurs infos pour eux, quoi. Ils sont pas obligés de faire paniquer toute la population. Ils mettent un dispositif en place, ils font confiance aux parents, ils font confiance aux adolescents. Alors oui, le foot draine des gogoles. Je suis désolé de le dire, il y a des gogoles parmi nous, il y a des mecs qui peuvent pas célébrer sans casser. Ok, mais ça c'est dans tous les matchs de foot. Et malheureusement, il va falloir éduquer certaines personnes. Mais jeter l'opprobre sur toute une communauté, la communauté française, la communauté marocaine, en disant oui, ça va déborder parce que c'est France-Maroc, non, ça je l'accepte pas de une. Et de deux, je pense qu'on a assez de recul pour faire la fête ensemble. Les Marocains et les Français feront la fête ensemble. Mais c'est pas j'espère, Estelle, c'est ce qui va se passer. C'est se passer. Et moi je t'appelle demain à midi et on fait le compte rendu de la soirée. Je sais très bien ce qui va se passer. Les Marocains vont gagner, ils vont passer en demi-finale.
Ah oui,
ah, il nous a bien dit.
Voilà, midi une demain dans Estelle Midi, Hicham. Allez, un petit pronostic, Hicham.
Alors moi, je vois un match très serré, un partout avec prolongation, et Yacine Bono qui sauve le Maroc au tir au but. Et vous allez voir. J'ai du nez, j'ai du pif.
Écoutez, super. Demain. Merci Hicham, en tout cas pour cette mise au point. Vous le regardez où, Mourad El Tebboune, ce
tranquille soir avec des amis, parce que je trouve que c'est.
Ah, vous
le
sortez
meilleur.
Pas quand même.
Non, je sors pas parce que de toute façon ils vont venir en bas de mes fenêtres.
Oui, c'est ça.
C'est vrai. On aura l'ambiance à la maison.
Oui. Autant rester à la maison,
Mourad. Autant rester au chaud chez soi.
Je suis en train de réaliser que moi je serai dans un resto avec des copines. On va pas regarder le match qui en fait est juste à côté de la cité gastronomique où sera ma fille, donc s'il arrive quoi que ce soit, je saute du resto, je vais récupérer.
Rappelez-moi quel âge a votre fille?
24 ans.
Ah oui, d'accord. Ah okay. Ouais. Écoutez,
quoi, c'est une adulte? Oui, c'est une adulte. Ça va.
Oui, Emma, vous êtes sûre qu'elle vous appellera si,
si ça chauffe. Ça chauffe, je peux.
Bah, elle a peut-être des amis avec elle.
Oui, bien sûr.
Elle va appeler maman, seule,
évidemment.
Bien. On la
souhaite. C'est la maman gênante, tu sais.
Oui,
c'est
bien.
Qui
va bien gérer.
On la voit bien.
Maman, je gère en fait. J'ai 24 ans. Oui, mais.
Alors, Charles, on termine avec des commentaires sur le WhatsApp et le résultat de notre sondage.
Ah oui, vous êtes nombreux à réagir. Alors, Laurent qui nous dit, mais comment se fait-il qu'on ne se pose pas ces questions quand il y a une finale du top 14, quand il y a les JO, etc. Il n'y a que avec le foot que ça draine autant de passion et de malheur. Voilà ce qu'on pense.
Bah, c'est le sport numéro un au monde en même temps.
Laurent, oui, mais j'ai aussi...
Sur du biathlon, il y a moins de débordements.
Oui. Oui. Bon. Et,
ou du curling.
Mais Jérôme nous dit, pour l'instant, moi, je trouve que cette Coupe du Monde se passe bien.
C'est
il y a
vrai.
Eu de la fête, de l'ambiance. Espérons, on peut croiser les doigts, ne pas avant d'avoir mal et ne pas tout de suite prédire des débordements qui n'ont pas encore eu lieu. C'est le rôle de la police d'anticiper, mais attention à ne pas jouer à se faire peur. Voilà ce qu'on dit Jérôme. Mais vous, qu'en dites-vous? Eh bien, on vous a posé la question sur nos réseaux sociaux d'éventuelles violences, des débordements. Est-ce que vous avez peur pour le match France-Maroc ce soir? Vous avez répondu oui à 72% sur nos réseaux.
Dans un instant, on va parler de Bernard Arnault. Cette petite phrase de Bernard Arnault: en France, on ne supporte pas la réussite. D'accord, pas d'accord avec le patron d'LVMH. On en débat avec vous dans un instant au 32-16. Tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 29, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Petit nouveau dans la bande aujourd'hui, Morad Aïtabouch en compagnie d'Emmanuel Dancourt, de Jean-Philippe Doux et de Charles Magnien. Et on va tout de suite poursuivre Estelle Midi avec la petite phrase du jour. Et c'est celle de Bernard Arnault dans le podcast Legend. Cette petite phrase, c'est « Il y a un climat qui fait qu'on ne supporte pas en France pour des raisons diverses que quelque chose réussisse vraiment, surtout si c'est à base d'entreprises privées. » Bernard Arnault, homme le plus riche de France et patron d'LVMH, est également revenu sur les critiques dont lui et surtout sa fortune font l'objet. Mais Charles, est-ce qu'on a vraiment du mal avec les riches en France ?
Eh bien, les Français aiment de plus en plus les grands patrons et leur réussite. 6 Français sur 10 ont une bonne image des chefs d'entreprise, selon un sondage Odoxa. Et selon OpinionWay, 7 Français sur 10 estiment que la France se porterait mieux si le gouvernement écoutait davantage les entrepreneurs, à tel point que plus d'un Français sur 2 pense qu'un entrepreneur ferait un bon président de la République. Des grands patrons, d'ailleurs, qui désormais n'hésitent plus à prendre part au débat public et politique. Michel-Édouard Leclerc, qui laisse planer le doute sur ses ambitions présidentielles, tout comme le milliardaire classé à gauche, Mathieu Pigasse, ou bien Bernard Arnault, qui dénonce régulièrement la fiscalité qu'il juge de plus en plus hostile aux entreprises. Mais au-delà de la réussite, c'est l'image de l'argent, de la fortune qui divise les Français. Selon un sondage IFOP mené en 2023, le rapport des Français à l'argent est de plus en plus décomplexé. 8 Français sur 10 l'associent au plaisir, à l'épanouissement, ils n'en font plus un tabou. Mais le rapport à l'argent est très marqué politiquement, nous apprend l'IFOP par exemple. 70% des sympathisants de gauche et notamment de la France Insoumise associent l'argent à l'injustice et 55% à la corruption.
Alors, êtes-vous d'accord avec Bernard Arnault et cette petite phrase « En France, on ne supporte pas la réussite » Jean-Philippe Doux ?
Totalement. Pour moi, la France, c'est le pays de Bernard Laroche. C'est le pays de celui qui ne supporte pas que son cousin ait un canapé en cuir, que son cousin devienne contremaître. En fait, c'est cette petite jalousie de celui qui s'extirpe de son milieu social d'origine pour avoir soit des responsabilités, soit de l'argent. Et pour moi, c'est pas que de l'argent. Mais il suffit de voir, par exemple, toutes ces voitures qui sont marquées avec des clés, les etc. Payés. Juste par jalousie. Moi, je le vis à titre personnel. Je roule pas sur l'or. J'ai 2 voitures différentes. J'ai une Dacia Sandero GPL qui a 16 ans.
Elle a pas dû être rayée.
Et j'ai une Porsche parce que je me suis fait plaisir à un moment. Elle coûte le prix d'une Clio. Elle coûte 30 000 euros.
Enfin, c'est une Clio toute option. Mais, quoi. Oui. Intérieur cuir.
C'est le même prix.
C'est une Clio
amphibie.
Jean-Philippe a une Porsche. Quand
c'est
même.
Le même prix.
Oui, il a une Porsche, mais alors je suis monté dedans et il y a du scotch sur les vitres.
Pas du tout.
Il faut pédaler.
Pas du tout. Bref, tout ça pour dire.
Dans son garage.
Non, mais c'est un investissement parce que c'est le prix d'une Clio, sauf que sa cote monte contrairement à une Clio où la cote descend. Bref, tout ça pour dire que j'ai des jours.
C'est une purge en fait.
J'ai des jours où je roule en Dacia Sandero GPL et on me regarde d'une certaine façon. Et j'ai des jours où je roule en Porsche et là on me regarde d'une autre façon. Et c'est pas un regard.
Rendez-vous Tinder, vous allez en Porsche.
C'est pas. Avec la capote.
Et quand tu vas à l'Ursaf, il va en Dacia.
J'arrive pas à dérouler mon raisonnement, c'est horrible.
Non, mais il paraît clair, tu vois. Non, mais Jean-Philippe, je peux parler, c'est une évidence. Si quelqu'un arrive dans un costard Armani, on le regarde pas de la même manière, c'est que de l'apparence.
Mais on me regarde pas avec admiration, on me regarde avec jalousie. C'est aux États-Unis, en revanche, vous arrivez avec une grosse voiture, là on vous regarde avec admiration. On ne vous envie pas, on aurait envie d'être à votre place. Là en France, on envie les gens, on jalouse les gens. Et c'est exactement la même chose, c'est ce que dit Bernard Arnault, c'est que quand on a une réussite, les autres vous reproche votre réussite. Moi, je suis d'un milieu social pauvre. Je peux vous dire que même dans ma propre famille, on me regarde avec jalousie. Parce que je suis sorti. C'est vrai, quand je parle de Bernard Laroche, je voyais le regard étonné d'Estelle. En fait, il y a eu un meurtre du petit Grégory parce qu'une famille, je dis pas forcément que c'est Bernard Laroche.
Oui,
il y a
en plus.
Une famille était jalouse de Jean-François, de Jean-Marie Villemain, qui avait sa petite maison.
C'est l'affaire Flactif.
Alors, l'affaire Flactif aussi. Ah, oui. Mais le canapé en cuir de chez Jean-Marie Villemain, en fait, il déclenchait toutes les jalousies.
Il avait été promu contre-maître. Mais on va pas tirer des conclusions sur l'affaire catégorie qui n'a jamais été résolue.
En plus, Bernard Laroche est mort.
Non, mais pour moi, c'est symptomatique quand même de cette France qui n'aime pas qu'on sorte de notre groupe, de notre caste sociale.
Je n'avais pas vu venir Bernard Laroche dans ce débat.
J'ai vu. La Porsche de Jean-Philippe.
Moi, j'ai une question parce que moi, j'ai une séquelle Grand Picasso. J'ai le droit d'exprimer quand même sur le sujet ou pas?
Vous pouvez le droit.
Ah bah, Grand Picasso, c'est le.
Et si on a un chemisier Barbara Buy, on est.
Si on n'a pas le droit de dire de marque à l'antenne, vous le savez. Voilà. Donc, Morad avec ta bouche.
Dacia, c'est pas une marque?
Si, mais c'est pas pareil.
J'en ai demandé.
Est-ce que vous trouvez qu'en France, on supporte la réussite ou pas? Ou est-ce que quand même, la réussite rend. On va dire rend jaloux et elle est plutôt jalousée, elle est enviée, mais elle est jamais célébrée, on va dire.
Quand c'est la réussite par la méritocratie républicaine, quand voilà, on est issu d'un milieu pas pauvre, mais en tout cas un peu moins facile que certains héritiers, etc. Moi, je trouve que cette réussite est formidable. C'est l'argent. Quand ça déborde de partout, quand on a l'impression que certains gagnent au Monopoly, quand d'autres sont là en train de se demander si la fin de mois va pas être délicate. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, la réussite, c'est un moteur. Ça doit rester un moteur pour moi. L'argent, pour l'argent, il y a un livre de Olivier Hammond qui est le culte de la performance. On est dans une logique, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Moi, je pense qu'à un moment, quand on a une Dacia, une Porsche, ça suffit, c'est formidable. Quand on a une librairie avec des chats...
Il a aussi un scooter. Il a aussi...
Mais il habite dans un village.
C'est vrai.
Difficile de se déplacer. Non, tout ça pour dire que le problème, c'est que ce qui me gêne peut-être un peu plus sur
la réussite, souvent, elle est liée à l'argent. C'est-à-dire quand vous réussissez en tant qu'entrepreneur, l'argent arrive.
Oui, mais c'est aussi pendant les crises que les riches malheureusement s'enrichissent encore plus. On l'a vu pendant le Covid, plus 86% de plus pour les milliardaires. C'est vraiment on gagne au Monopoly. On est presque parfois en train de se dire, bah finalement, si je joue sur la dette, je vais gagner de l'argent. Donc plus la Grèce va s'enfoncer, plus j'ai de chances de gagner d'argent. Moi, le mérite, on a créé un club qui s'appelle le 21e siècle, qui était le club qui permettait à tous ceux qui réussissaient, et on s'était rendu compte que dans la haute fonction publique, malheureusement, les gens issus de l'immigration ne réussissaient pas parce que c'est des choix politiques. En revanche, médecins, avocats, professions libérales, commerçants, ça cartonne. Mais vraiment. Et je me dis là, oui, la France permet ses réussites. Et il faut absolument favoriser la réussite. Mais il ne faut pas que l'ascenseur social soit coincé au sous-sol et qui pue la pisse. Je paraphrase Jamel Debbouze. Mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour dire que la réussite, quand c'est de la méritocratie républicaine, parce que la France a des outils pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse avoir un chemisier, qu'on puisse avoir des belles voitures. Moi, je trouve ça génial. Franchement.
Alors, Emmanuel Dancourt, est-ce que vous comprenez quand même qu'il y ait, en France, quelque part, un peu une détestation des riches et une non-acceptation de la réussite, on va dire?
Le problème, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Il y a cet écart qui se creuse dans une société française qui est une société à la base profondément égalitariste. Donc, on a déjà ce principe-là. D'autre part, si je reviens à Bernard Arnault, et donc pas Bernard Laroche, Bernard Arnault, il a dit ça quand même dans un contexte particulier. Il dénonce, on sait très bien que Bernard Arnault dénonce une fiscalité punitive pour les grands patrons, une administration, mais je crois qu'on peut tous dénoncer la bureaucratie ici dans laquelle on s'empête. C'est surtout ça son discours principal. Après, moi, ce qui m'ennuie beaucoup dans ce qu'il dit, c'est pas vrai que la France n'aime pas le succès. C'est juste que là, d'un seul coup, on associe le succès à l'argent. C'est un grand classique, c'est peut-être dans une grande majorité des cas, mais ce n'est pas que ça le succès. En France, on a un pays plutôt intellectuel. On a un rapport à l'argent qui est complexe, et ce qu'il regrette, c'est qu'on n'ait pas le côté décomplexé des États-Unis et de la Chine, où il est reçu comme un prince saoudien.
Oui, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'argent. Il crée des emplois.
Mais bien évidemment, et tout ça est hautement, hautement louable. Mais le succès, c'est pas que ça. On est parfaitement capable. Dieu sait qu'on est fort dans plein de sports en France, et on sait célébrer nos succès avec, c'est pas toujours des Mbappé qui gagnent beaucoup d'argent, c'est des fois des sports. Tout à l'heure, on citait le
biathlon. Mbappé qui gagne beaucoup d'argent, ça pose jamais de problème.
Ouais.
Ça pose moins de problèmes que Bernard Arnault.
Il en redonne.
On entend du mépris pour les millionnaires qui tapent dans un ballon.
Mais personne ne dira.
Ils sont trop payés pour taper dans un ballon.
Personne ne dira, ils payent pas assez d'impôts par rapport à ce qu'ils gagnent. Alors que Bernard Bernard Arnault, on va aller quand Bernard Arnault donne à Notre-Dame, le premier truc c'est pas de dire merci Bernard, c'est de dire attendez, il fait ça parce qu'il va défiscaliser. Personne ne dirait quand Mbappé donne à une fondation, pour le coup, il fait ça pour défiscaliser. Alors, c'est pas le même
traitement. Je vais finir. Il y a aussi tous les succès qu'on a, on a une empreinte culturelle qui est extrêmement forte dans le monde, que ce soit en chanson, en sculpture, en peinture, enfin partout, on est partout la France. On est un pays avec du succès et pas forcément des gens qui gagnent de l'argent. Et c'est ce pays-là que nous sommes, qui est pas anglo-saxon, qui est pas chinois, qui est pas à valoriser le dieu argent. On n'est pas dans ce culte-là. Par contre, le succès, bien sûr qu'on aime. Et les jalousies dont tu parles, c'est la nature humaine. Évidemment qu'on est jaloux, mais tu vois, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir une Porsche. Honnêtement, ça me fait pas du tout envie. Et je comprends que ça te fasse plaisir. Mais je comprends que ça lui fasse plaisir et c'est fait plaisir. Moi, ce serait autre chose. Mais voilà, ces jalousies, elles existeront toujours, bien évidemment.
Et on a Marie avec nous pour en débattre. Marie de Figeac, elle est retraitée enseignante. Bonjour Marie.
Allô ?
Oui, est-ce que vous nous entendez Marie ?
Oui, je vous entends.
Écoutez, super.
Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec Bernard Arnault. Je trouve ça vraiment lamentable. C'est que dès que quelqu'un réussit, tout le monde lui tombe dessus. Parce qu'on va l'accuser d'avoir eu des parents riches, d'avoir magouillé, d'avoir eu des soutiens, des passe-droits, etc. Et personne ne voit jamais le travail que certains ont mis pour y arriver. Le sacrifice du temps, de la famille, les privations physiques, parfois même jusqu'à manger, ne pas manger à sa faim pour y arriver. On ne voit pas que le résultat. Mais... Et quand quelqu'un est en haut, on ne pense qu'à une seule chose, c'est le descendre. Mais moi, je suis désolée. Bernard Arnault, il peut gagner des milliards, j'en ai rien à faire. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que celui qui travaille, il gagne pas de quoi faire vivre sa mari, sa famille. Il est là, le problème. C'est pas celui qui gagne trop ou beaucoup. C'est celui qui gagne pas assez. Et comme on est toujours tourné vers ceux qui gagnent trop en les condamnant, eh ben, on condamne, de fait, ceux qui ne gagnent pas assez pour vivre. C'est un monde à l'envers, basé sur la jalousie. Voilà.
Mais le problème, Marie, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de gens qui gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et de plus en plus qui en gagnent de moins en moins. C'est ça, c'est en fait, c'est le fossé qui se creuse, quoi.
Mais alors, il faut se demander pourquoi le fossé se creuse. Qu'est-ce que vous voulez ? À force de prendre à ceux qui gagnent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et ils vont partir ailleurs. Et c'est logique. Ils n'ont pas gagné pour se faire piquer 50% ou 60% de ce qu'ils gagnent. Si on ne permet pas à quelqu'un qui a donné une partie de sa vie pour réussir, si on ne lui permet pas de toucher les bénéfices de son investissement...
Mais 50% de Bernard Arnault, il lui en reste encore à la fin du mois, je vous assure, Marie.
Mais c'est pas une question de somme d'argent, c'est une question d'état d'esprit. Pierre Ménès-France, qui était un très grand homme politique socialiste, disait « En France, le socialisme consiste à couper les têtes qui dépassent. Et c'est exactement ce que l'on est en train de faire. On coupe les têtes qui dépassent et en disant, quand tout le monde sera dans la merde, et ben, tout le monde sera content parce que tout le monde sera au même niveau. Mais c'est pas ça qui fait réussir une société.
D'accord. Eh ben écoutez, merci en tout cas Marie pour ce coup de gueule. Marie qui est d'accord avec Bernard Arnault. Vous voulez rajouter un truc
Non, Brad, simplement pour rappeler la une de Libération dont tout le monde forcément se souvient, c'était en 2012. C'était casse-toi pauvre riche, qui était évidemment la référence à Nicolas Sarkozy qui avait dit au salon de l'agriculture casse-toi pauvre con. Mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque Bernard Arnault avait décidé de devenir belge. C'était ça le scandale. Encore une fois, moi je veux qu'il reste ici. Je veux que l'argent puisse ruisseler partout pour que le pouvoir d'achat, que évidemment les Français puissent mieux vivre. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est comment on fait pour qu'effectivement cet argent ruisselle.
C'est casse-toi riche con.
Casse-toi riche con, voilà. Merci Michel.
Et on termine très rapidement avec Paul qui nous appelle de Charente. Bonjour Paul.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe.
Paul, bonjour. D'accord ou pas d'accord avec Bernard Arnault ?
La question est plus complexe que ça. Je pense déjà qu'il faut faire la différence entre quelqu'un comme Jean-Philippe qui intervenait au début du sujet et qui se fait, voilà, par son travail, un plaisir comme ça de... une voiture, ça peut être autre chose. Il faut faire la différence entre un artisan qui par son travail va réussir à s'acheter une maison, peut-être une résidence secondaire, et quelqu'un qui est dirigeant d'un grand groupe, quelqu'un qui va être actionnaire à très très haut niveau, j'entends, et qui va accumuler des richesses à très très haut niveau. Je pense qu'à un certain stade, on a la nécessité de faire preuve d'un peu de sobriété et d'un petit peu d'humilité. Je pense pas que la majorité des gens soient jaloux de la réussite de personnes qu'on peut croiser dans notre quotidien, mais plutôt des immenses fortunes.
C'est ça.
Je suis pas d'accord avec la personne qui intervenait juste avant. Il faut prendre aussi en compte le reste à vivre. À partir du moment où on taxe des très grosses fortunes, on sait pertinemment qu'il va leur rester largement de quoi vivre et de se faire plaisir. Alors que même des gens qui vont gagner 3 000 à 4 000 euros par mois, ben tout de suite ça va être très compliqué à partir du moment où il va y avoir des charges supplémentaires. Mais il faut pas non plus oublier d'où on vient. J'ai été étudiant, boursier. J'ai eu une période de ma vie de quelques mois pendant laquelle j'ai été au chômage. Aujourd'hui, je suis salarié et j'ai une petite entreprise juste à côté. Et bon, même si effectivement, quand je paye mon URSSAF, je le ressens. Je suis quand même, je trouve ça normal. Et je suis très content de payer des impôts en France, même à ce niveau-là, parce que on n'oublie pas d'où on vient. On n'oublie pas que quand on va chez le médecin, quand on va à l'hôpital, et la plupart du temps, c'est pris en charge.
On a perdu Paul. Bon, écoutez, merci Paul en tout cas d'avoir été avec nous. On n'a pas assez de temps pour le rappeler. Ça donne quoi sur le WhatsApp, Charles?
Beaucoup de messages. Cyril qui applaudit Jean-Philippe. Nous sommes dans un pays de jaloux, nous écrit Cyril. Le pire, ce sont les fainéants qui critiquent ceux qui bossent, qui investissent, qui créent de l'emploi. Et ce sont souvent les mêmes qui ensuite vont idolâtrer les millionnaires qui tapent dans un ballon. Voilà ce que nous dit Cyril. Régis nous dit oui, moi je l'ai vécu cette jalousie. J'ai même perdu des amis quand j'ai changé de télé à l'époque. Je me souviens d'avoir acheté une télé beaucoup plus grande et d'avoir senti la jalousie dans le regard de mes amis. Ça a mis de la distance entre nous. Donc oui, même à petite échelle,
c'est quand même mieux.
Oui, pour le match. Ouais. Oui. Oui, mais parfois, on jalouse même des choses qui peuvent paraître anodines. Alors Bernard Arnault qui nous dit qu'en France, on ne supporte pas la réussite. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui? Vous avez répondu d'accord à 88% sur
Ah oui, quand même. Plébiscite en faveur de Bernard Arnault. Dans un instant, Anthony Morel viendra nous parler d'argent de poche. Ça fera un petit peu moins d'argent quand même. L'argent de poche qui passe au numérique. À tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et midi 50, c'est l'heure d'accueillir, bien sûr, Anthony Morel. On n'arrête pas le progrès.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
On parlait d'argent avec Bernard Arnault il y a un instant. On va parler d'argent toujours, mais d'argent de poche cette fois-ci avec vous, avec des applications, Anthony, qui permettent de donner de l'argent régulièrement aux enfants, mais qui apprennent également aux enfants à ne pas faire n'importe quoi avec l'argent.
Ah oui, c'est aussi ça l'intérêt de l'argent de poche, c'est de se faire plaisir, évidemment.
Oui, mais acheter des bonbons, des trucs.
Mais c'est aussi apprendre à, peut-être je peux économiser, et puis peut-être que dans quelques mois je m'achèterai un truc un peu plus gros.
Ouvrir un plan d'épargne retraite.
Voilà, ça, on va y venir. Parce
que le rêve de tout enfant de 10 ans.
Mais tu sais, on n'est peut-être pas si loin, effectivement.
Cher Père Noël, j'aimerais un PER.
On se rappelle que les lycéens avaient quand même manifesté pour les retraites.
Alors, je vous donne deux, trois chiffres quand même. Il y a 44% des 8-14 ans qui reçoivent de l'argent de poche régulièrement. C'est 24 euros par mois en moyenne chez les 8-10 ans.
C'est beaucoup.
32 euros pour les 13-14 ans.
C'est beaucoup.
C'est moyen.
Mais moi, je donne 10 balles.
Les enfants de Bernard Arnault, ils ont peut-être eu un peu plus. Ça fait monter la moyenne.
D'accord, ça me paraît énorme.
Ça paraît beaucoup, effectivement. Alors, jusqu'ici, ça se faisait beaucoup sous forme un petit billet avec des petites pièces, etc. Mais c'est passé aussi au mode numérique. Donc maintenant, il y a des applications pour ça. Alors, il y a une application qui fonctionne très bien, c'est un peu les leaders, c'est PixPay. Donc PixPay, c'est une application où vous pouvez, en fait, c'est couplé à une carte, donc l'enfant ou l'ado a une carte, et les parents peuvent faire des versements réguliers via l'application. Donc vous pouvez faire soit un versement tous les mois, toutes les semaines, ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire des versements ponctuels contre mission. Donc par exemple, vous pouvez dire, si tu passes l'aspirateur, tu peux déverrouiller la mission et c'est 2 euros. Et tu as 2 euros qui partent directement.
Génial.
C'est assez malin. En fait, ils ont fait vraiment un truc un peu ludique comme ça. Il y a aussi la possibilité de créer des cagnottes et des coffres-forts. Donc coffre-fort, c'est quoi? C'est tu vas mettre de l'argent pour cagnoter un peu ton argent de poche et les parents abondent avec un taux d'intérêt. Donc c'est, par exemple, j'économise pendant quelques mois, les parents donnent, je sais pas, 10% de plus, et donc je vais pouvoir m'acheter un truc un petit peu plus gros.
Oh, je vais filer ça à ma mère.
Bah, j'étais... Oh
je pensais que ça allait dire, je vais filer ça à mon copain.
Je vais lui demander d'abonder.
Voilà, maman, tu abondes maintenant.
Non, mais c'est très malin. Et alors, il y a un côté aussi où les parents peuvent aussi choisir des trucs que les enfants peuvent pas acheter, donc ils peuvent pas aller, par exemple, sur n'importe quel site internet.
Oui.
Il y a une forme de contrôle. Alors, c'est aussi un petit peu du flicage, parce qu'on a des alertes pour savoir ce que les enfants ont acheté, donc on voit ce que les enfants
bien,
font.
Ça.
Eh, voilà, voilà. Après, c'est paramétrique. Hein, mais bon, c'est vrai, vous trouvez ça pas bien, vous. Ça m'étonne de vous, ça.
Bah non, mais l'argent de poche, normalement, on te donne de l'argent, en fait, t'en fais ce que tu veux,
d'accord.
T'achètes des bonbons, des trucs. Quand ils ont 8 ans, qu'est-ce que tu veux qu'ils achètent avec?
C'est vrai. Mais en tout cas, ces petites applications. Alors après, le truc, c'est que c'est payant. Donc l'argent de poche vous coûte un peu plus cher parce qu'il faut payer, évidemment,
l'argent.
Il y a une taxe sur l'argent de poche. Ouais.
Et pour les plus jeunes, alors?
Alors pour les plus jeunes, il y a un truc qui est génial.
J'adore.
C'est le porte-monnaie sans contact. Ça s'appelle le Money Walkie. Donc je vous en ai apporté deux, mais il y en a plein. Donc c'est des petits objets assez rigolos. Donc là, c'est une petite manette de jeu vidéo, un mini bubble tea.
Mon fils Charlie, il a une planche de surf, il a un Money Walkie, planche de surf.
Et ça fonctionne super bien. Donc en fait, c'est une carte sans contact, mais qui prend la forme d'un petit jouet. Et donc on va pouvoir, les parents vont pouvoir verser de l'argent dessus, évidemment, à la demande. Et donc on se balade avec ça et à la boulangerie, hop. Bah oui. Alors c'est marrant parce qu'il y a des adultes aussi qui l'utilisent maintenant. Alors c'est une bonne question. Je sais pas si c'est plafonné.
Mais s'il le perd, on perd l'argent.
Ah bah si vous le perdez, oui.
Comme une carte bleue,
la carte bleue.
Comme un billet de banque en fait.
Mais mon fils est très fier d'aller acheter un paquet de gâteaux et de payer avec son Money Walkie.
Exactement. Et ce qui est génial, c'est que t'as plus besoin de te balader avec un billet dans la poche. Ça évite aussi les problèmes de raquettes, ce genre de trucs. C'est moins effrayant d'avoir un gros billet que d'avoir ça 50 euros sur son petit.
Celui que vous tenez dans les mains, pour ceux qui nous écoutent, voilà, c'est une petite console de jeu.
Petite manette.
Il y a aussi un petit verre de bubble tea. C'est absolument génial. Ça vaut combien ça?
Ça coûte une trentaine d'euros l'objet.
D'accord.
Et après, faut payer un abonnement. Alors ça doit être autour de 3 euros par mois. Bah oui, c'est toujours pareil. Bah oui.
Excusez-moi.
Et ce qui est très malin, c'est que vous pouvez en offrir un à des copains, mais les copains après sont obligés de s'abonner et donc d'aller dessus. Donc il y a un système de parrainage. Moi, il a été offert par un de ses copains à l'anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Et derrière, c'est moi qui mets de l'argent dessus.
Bien joué.
Bien joué, bravo.
Bien joué. Il y a également, Anthony, des applications pour apprendre aux ados les bases de l'éducation financière. Ça, c'est génial.
C'est là qu'on arrive au PER.
Voilà, bien sûr.
Non, mais c'est vrai, l'éducation financière, je sais que vous en êtes convaincu aussi, mais c'est une des bases de la vie quotidienne. Ça devrait être enseigné à l'école.
Oui.
Vraiment, je pense que les gens seraient en moyenne beaucoup plus riches, s'ils savaient un peu ce que c'est qu'un PEA, ce que sont les intérêts composés, comment investir, enfin des trucs vraiment très basiques. Et donc il y a des applications qui proposent ça maintenant pour les enfants, en mode comme Duolingo, vous savez, mais sauf qu'au lieu d'apprendre une langue, et vous allez apprendre des choses très basiques, ce que c'est une action en entreprise, comment on gère un budget. Donc ça s'appelle MoneyKiz, donc K-I-Z à la fin. Et là encore, l'idée c'est vraiment d'apprendre ces choses-là de base.
Il y a des études à Charles Magnien.
Ouais. Non mais toutes les études que les habitudes financières, ça se construit très tôt. C'est-à-dire la capacité à arbitrer entre le plaisir immédiat, j'achète 10 euros de bonbons parce qu'on m'a donné 10 euros.
Ou une carte Panini, Estelle.
Voilà,
oui, carte Panini, c'est vrai. Non, mais chacun ses obsessions.
Il faut j'achète avoir des un 6ème air fryer ou j'épargne. Les vrais dilemmes du quotidien.
Non, mais c'est important de se faire plaisir, évidemment, avec l'argent de poche, encore plus.
Bien sûr.
Mais avoir cette idée qu'on peut économiser pour pouvoir avoir des choses un petit peu plus belles dans l'avenir, c'est aussi important. Voilà.
C'est payant? Non.
L'application, oui, c'est pareil. Bah oui, il y a toujours pareil, un abonnement à payer. Oui, rien n'est gratuit.
Ouais, il faut apprendre.
C'est vrai, tu as
payé.
Il n'y a pas d'argent magique.
Il n'y a pas d'argent les impôts.
Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi. On vous retrouve évidemment lundi. Merci beaucoup, Anthony. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera de la canicule avec des conséquences sur les transports. Il y a plein de TGV qui sont annulés. Il y a des RER qui sont en retard. Est-ce que vous trouvez ça choquant? Mais écoutez, on en débat avec vous. Et puis, on parle du match ce soir. France-Maroc, est-ce que les footix vont nous gâcher la vie? Vous savez, ces gens qui n'y connaissent rien, mais qui parlent durant tout le match. Écoutez, on en débat dans un instant. Et si vous avez un petit exemple de footix, bien sûr, vous nous écrivez sur le WhatsApp.
Au 06 12 424 424, si vous redoutez les phrases comme « On marque de quel côté ?»« On joue en quelle couleur
?» Je trouve qu'on a moins envie.
Oui, c'est vrai.
On touche moins la balle.
Ils n'arrêtent pas de se rouler par terre, dis donc. Si vous redoutez ces phrases, 06 12 424 424.
On vous attend à tout de suite dans Estelle Midi.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.